La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz, avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Nouvelle édition ce samedi sur 9FM de la biodiversité samedi. Un rendez-vous proposé par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf dans le cadre de son label Ramsar, avec pour mission l'information, la communication sur de grands enjeux liés à la biodiversité. Aujourd'hui, il convie le syndicat Marc Robin, professeur à Nantes Université. Vous intervenez au sein de son institut de géographie et d'aménagement régional. Vous êtes également responsable scientifique de l'ORDC, l'Observatoire Régional des risques côtiers en Pays de la Loire. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, le thème de l'émission du jour, le changement climatique et précisément son impact sur les milieux. On va parler de littoral, on va aussi parler des marais. C'est un sujet que vous maîtrisez, Marc Robin, que vous étudiez au quotidien particulièrement.
Eh bien, effectivement, c'est mon cœur de métier. Je suis géographe et je suis spécialisé sur l'analyse des risques côtiers, c'est-à-dire l'étude des aléas et des enjeux, donc impactés par ces aléas, donc pour produire finalement de l'information sur les risques, et cela pour à la fois donc améliorer les connaissances scientifiques d'une façon générale, mais aussi apporter finalement une aide aux territoires qui sont confrontés à ces problématiques de risque.
Des problématiques, j'ai l'impression, de plus en plus prégnantes, de plus en plus actuelles.
Alors absolument, on a dans le cadre du changement climatique un certain nombre de variables qui impactent de plus en plus ces territoires, donc l'érosion, les problématiques de submersion, et donc on essaie d'analyser finalement plus précisément à l'université ces sujets pour voir ce qui est vraiment imputable au changement climatique ou alors ce qui est imputable à de mauvais aménagements, parce qu'on peut parler effectivement aujourd'hui de mal aménagement ou de mal adaptation en matière d'organisation du territoire.
Je vous imagine très sollicité, alors à la fois dans le milieu scientifique mais aussi par les collectivités locales.
C'est un petit peu l'objet et l'intérêt de l'Observatoire Régional des risques côtiers qui a été créé en 2016 à l'initiative de la région Pays de la Loire et puis de l'Adréal ensuite, qui a accompagné le mouvement et qui répond finalement à une sollicitation de la stratégie nationale pour la gestion du trait de côte, lancée par le ministère en 2012 à la suite de l'épisode de Xynthia, pour doter chaque région finalement d'observatoire pour suivre un petit peu toutes ces problématiques risques. Donc l'Observatoire Régional des risques côtiers réunit dans son comité technique un certain nombre de partenaires, effectivement les services de l'État et puis les collectivités territoriales de la région, aux porteurs de papy pour être plus précis. Donc voilà tout un ensemble de partenariats qui nous permet d'échanger des expériences, de réfléchir et de faire du transfert finalement d'expérimentation scientifique vers les territoires. Donc une dimension un peu opérationnelle.
Alors vous, en tant que chercheur, vous avez une spécialité en particulier ?
Alors moi, ma spécialité, c'est l'analyse précise des risques côtiers en utilisant des techniques d'investigation, la télédétection par exemple, le traitement de l'imagerie satellite, de l'imagerie aérienne, mais aussi, tout ce qui est création d'informations géographiques à travers ce qu'on appelle en termes général la géomatique. C'est vraiment les outils de traitement d'informations géographiques, la structuration d'informations géographiques et la production d'indicateurs pour aider les territoires à se structurer et pour aider aussi quelque part les politiques publiques lorsqu'elles s'approprient ces avancées en matière de spatialisation.
Alors vous connaissez bien le thème du jour, à savoir les enjeux du changement climatique. On va parler du marais, on va évidemment parler aussi un petit peu du littoral parce que ça fait partie franchement des grands enjeux d'aujourd'hui. Ces enjeux, ils sont actuels, réels, mesurables.
Alors les enjeux sont multiples, puisque par enjeu, on entend aussi bien des enjeux en termes d'urbanisation, d'infrastructure, ça peut être des enjeux en termes d'occupation du sol, divers et variés, donc l'agriculture est un enjeu, les milieux naturels sont des enjeux, la biodiversité est un enjeu, donc finalement c'est un ensemble d'éléments qui sont nécessaires finalement à notre société et qu'il faut prendre en compte et qu'il faut d'une façon ou d'une autre protéger ou du moins faire en sorte que les menaces qui pèsent sur ces enjeux soient minimisées le plus possible. Et donc c'est un petit peu, si je prends l'exemple de l'érosion côtière, voilà, on a des enjeux d'urbanisation, des infrastructures qui peuvent être menacées par le repli côtier dû à l'érosion. Donc effectivement, que faire par rapport à ça ? On peut résister et renforcer les défenses côtières, ou on peut, dans certains endroits où les enjeux ne sont pas très très importants, imaginer des recompositions territoriales, c'est-à-dire que si vous avez une route qui est menacée par l'érosion, ou quelques bâtiments, est-ce que ça vaut le coup de développer des défenses côtières importantes sur la côte pour protéger ces enjeux, ce qui peut peut avoir toujours des impacts négatifs à moyen long terme, ou au contraire réfléchir à une recomposition territoriale avec une indemnisation pour pouvoir restaurer finalement un état initial avant enjeu urbain, et ainsi donc accompagner la remise en état finalement d'un territoire dans lequel le risque disparaît quelque part parce que les enjeux ont disparu.
Une, je pense, des premières questions qu'un auditeur de 9FM peut se poser, c'est l'auditeur qui vit à Noirmoutier, à Barbâtre, à Saint-Jean-de-Mont, à Notre-Dame, donc en bord de mer, la montée des eaux, on nous en parle depuis un petit moment maintenant, elle est inéluctable, et est-ce qu'on peut la mesurer aussi, est-ce qu'on peut imaginer une mesure particulière avec un calendrier particulier?
Alors la montée des eaux est en effet inéluctable, c'est un processus qui est amorcé depuis bien longtemps, puisque la transgression holocène a commencé depuis 18 000 ans, ou à date à laquelle finalement le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, donc on imagine le littoral à 80 km à l'ouest de sa position actuelle, donc la mer a monté assez rapidement, elle a commencé à ralentir il y a 5-6 000 ans, et ensuite donc on voit que la côte, je dirais, se régularise, donc les mouvements sédimentaires comblent les baies, c'est le cas du marais breton vendéen, et donc quelque part le processus d'augmentation du niveau de la mer reprend un petit peu de la vigueur aujourd'hui avec justement la contribution anthropique au changement climatique. On est aujourd'hui en région sur une base d'à peu près 1 mm à 1 mm et demi par an d'augmentation du niveau de la mer. Donc ça, ce sont des données qui sont mesurées aujourd'hui au marégraphe, donc c'est le cas du marégraphe de Saint-Nazaire, et donc ce sont des données factuelles, donc incontestables, le niveau de la mer monte. La vitesse est assez lente quelque part, mais lorsque l'on regarde un petit peu, je dirais, l'évolution planétaire, donc retranscrit à travers les rapports du GIEC, notamment le dernier, on voit, quand on fait une projection à l'horizon 2100, que le niveau de la mer devrait reprendre de la vitesse, et peut-être, là encore, c'est un pronostic, mais il faut mettre beaucoup de précautions dans les pronostics. On imagine, dans un scénario plutôt positif pour nous, que le niveau de la mer serait peut-être 40 cm plus haut qu'aujourd'hui, en 2100, mais ça peut aller jusqu'à 80 cm, avec un scénario plutôt négatif. Donc aujourd'hui, on est sur des scénarios un peu intermédiaires, donc on peut s'attendre effectivement à une remontée un peu plus rapide que ce que l'on constate aujourd'hui, donc dans le prochain demi-siècle.
Ça fait partie aussi de votre travail, effectivement, de mesurer et de prévoir, de modéliser évidemment cet avenir. Alors, le littoral, le marais aussi, ici, beaucoup d'auditeurs vivent près d'un marais, un site artificiel créé par l'homme, géré par l'homme. Il y a forcément un biais, un masque, me disiez-vous, en préparant l'émission, avec cette gestion qui donc masque en grande partie les effets du changement climatique. Voilà, j'aimerais bien qu'on s'intéresse particulièrement au marais, mais il y a un biais un peu humain dans cette affaire.
Alors, effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a un biais. Si la question, c'est comment est-ce que le changement climatique impacte un espace naturel, il faut que l'espace soit réellement naturel pour pouvoir mesurer l'impact du changement climatique. Aujourd'hui, le marais breton-vendéen, comme vous avez dit, c'est un espace artificiel, entre guillemets, effectivement. Donc, c'est une zone de colmatage qui, depuis des siècles, donc, a été drainée, endiguée pour produire ce qu'il est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce marais, c'est une grande partie un marais doux. Je crois qu'il y a à peu près 26 000 et quelques hectares en marais doux. Il doit y en avoir 7 ou 8 000 en marais salé. Donc, tout ça, c'est effectivement sous contrôle d'une gestion très stricte, donc une gestion hydraulique, de façon à faire de ce marais, finalement, quelque chose d'utile à la société et à l'économie, notamment à travers le pâturage, puisque finalement c'est ça, c'est créer des prairies qui puissent accueillir de l'élevage et qui puissent à la fois être pâturées ou fauchées. Donc on voit bien qu'il y a une orientation agricole donnée à ce marais. Donc en contrepartie, et ce qui est bénéfique, lorsqu'on maintient une gestion de ce type, on maintient un type d'habitat d'intérêt communautaire, avec des prairies particulières qui sont d'intérêt communautaire. Donc ça, c'est quelque chose de bénéfique. Donc à partir de là, la question, c'est de se dire, si le climat change, est-ce que tout ça va changer? En réalité, effectivement, quand on voit une espèce, je prends une espèce végétale, je prends par exemple la sirpaie maritime, qui est bien connue dans le marais. Donc c'est quelque chose qui vit dans le marais plutôt saumâtre, et qui est en équilibre avec un environnement, avec une salinité, une température, voilà. Donc c'est comme toute espèce végétale, elle est en équilibre avec son environnement. Mais il suffit de peu de choses pour la faire changer. Par exemple, si on met un petit peu de salinité, peut-être que la sirpaie maritime va évoluer vers une prairie avec d'autres espèces, par exemple le jonc de Bernard, qui est plus sensible au sel. D'un autre côté, si la salinité salinité baisse un peu et on revient vers un processus un peu plus doux, bon, la sirpaie va être menacée et une autre espèce pourra peut-être prendre sa place. Par exemple, je ne sais pas moi, le roseau à massette ou un truc comme ça, ou une espèce comme ça. Donc ça veut dire que finalement, on a des auréoles d'associations végétales qui sont sensibles à leurs conditions. Or, si la notion de salinité, par exemple, dire le niveau de la mer augmente, donc on va vers une salinité plus grande. En réalité, c'est pas aussi évident que ça, parce que la gestion hydraulique est là, et donc on maîtrise les niveaux d'eau, on maîtrise la partie salée, la partie douce, on maintient l'hiver, on essaie d'évacuer le plus possible l'eau douce l'hiver, mais l'été, on maintient un peu d'eau douce dans le marais pour éviter finalement l'effet, comme on dit, paillasson. Hein, en été, quand le marais, enfin, toute la végétation est cramée, donc on essaie finalement de, par la gestion, de maintenir finalement des niveaux d'eau, et on se rend compte que ça, c'est vraiment un déterminant pour les communautés végétales, beaucoup plus déterminant que l'impact du changement climatique. Donc si la gestion change, il y a fort à parier pour que certaines espèces vous changent immédiatement, parce qu'il y a une forme de symbiose ou un assujettissement finalement des espèces, finalement des communautés végétales, donc aux pratiques de gestion du marais. Donc c'est très très difficile finalement de dire la remontée d'une variable de type température ou une stagnation des précipitations avec une augmentation de l'évapotranspiration potentielle à échéance de la fin du siècle, quel impact cela aura sur tel ou tel type de communauté végétale, dans la mesure où derrière on a toute une gestion hydraulique qui peut maintenir de l'humidité, qui peut maintenir un taux de salinité. Donc voilà, c'est ça un petit peu la question que l'on peut se poser par rapport au marais. Donc la question est complexe parce qu'on ne peut pas y répondre de façon aussi tranchée que pour finalement un écosystème qui est vraiment dans un environnement naturel. Par exemple, les récifs d'Hermel, là, au sud de Noirmoutier. Donc là, effectivement, il n'y a pas de gestion particulière. Donc les récifs d'Hermel subissent, je dirais, les mouvements naturels. Donc la notion de transfert de sédiments qui en ce moment ensable les récifs et qui les mettent un peu en péril. Bon, peut-être la qualité de l'eau quelque part, mais surtout les transferts de sédiments, ce qui fait que là, on a un ensemble qui peut être un peu menacé à court, moyen, long terme, parce que les mouvements sédimentaires se sont déployés et finalement, ce sont des mouvements très long terme. Ça participe de la création de l'île de Noirmoutier, de l'allongement de la flèche de Barbâtre vers le goulet de Fromentine, et tout ça sont des mouvements sédimentaires très longs qui n'ont pas grand-chose à voir avec le changement climatique. C'est ça aussi la question.
Et quand on est avec un spécialiste, on a une longue réponse. Moi, j'ai plein de questions encore à vous poser, Marc Robin. Justement, quand même, sur le marais, les marais, l'impact hein, tout de même du changement climatique sur le marais salé, sur le marais doux, et puis évidemment ce qu'on peut prévoir et corriger peut-être. On vous retrouve après une pause musicale.
I've been going up and down. Now I'm 6 feet over ground. From up here looking down. And I see a little clearer now. I've been chasing a dream. I'm too blind to see this life. Feels like heaven to me. Feels like heaven to me. And I've been running in circles. I've been losing the meaning of time. Cause I've been running in circles. But I've gotta let it go for the night. Gonna love a little, gonna lose a little. Gonna move a little for a while this time. And I hide a little, and I cry a little. But I've gotta let it go for the night. I just saw it happening. I've been running in circles. I've been losing.
Bien dans la biodiversité samedi avec Marc Robin, chercheur professeur à Nantes Université. Il est responsable scientifique de l'ORDC, l'Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire. On évoque l'impact sur le marais breton vendéen, sur le littoral aussi, hein, du changement climatique. C'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement, objet de plusieurs de vos recherches. Et puis, vous avez participé aussi à un fameux rapport du GIEC. Alors, un rapport qui était au niveau régional sur, justement, le changement climatique.
Absolument, c'est un rapport qui a été fait collectivement, donc, qui est disponible sur Internet. Il suffit de taper GIEC Pays de la Loire et donc on peut télécharger le rapport qui fait le point, effectivement, sur l'ensemble des problématiques du changement climatique et avec un angle atténuation du changement climatique, comment faire pour atténuer le changement climatique et puis à la fois, donc, l'angle adaptation au changement climatique, comment on s'adapte finalement au changement climatique dans tous les territoires de la région, littoraux ou rétro-littoraux ou intérieurs, quoi.
Des questions, évidemment, qui mobilise beaucoup de politiques publiques actuellement. Retour sur le marais, sur les marais. On a sur notre territoire des marais doux, des marais salés. L'impact du changement climatique va être différent, justement, selon la nature du marais.
Alors, le changement climatique impacte l'ensemble des territoires de la région, hein, pas simplement le marais, bien entendu. Donc, on peut mesurer l'impact de ce changement climatique à travers diverses variables. Alors, il y a bien sûr la remontée du niveau de la mer qui est amplifiée par l'activité humaine. Donc ça, c'est une première chose. Et un marais maritime comme le marais breton-vendéen, forcément, va être impacté par la remontée du niveau de la mer, puisque forcément, les marais endigués protègent des zones qui sont proportionnellement de plus en plus basses par rapport au niveau de la mer qui monte. Donc, on a mécaniquement donc un risque qui augmente avec le temps. Mais le changement climatique, c'est aussi d'ailleurs, quand on parle de changement, on devrait plutôt parler d'évolution climatique, parce que c'est pas un changement, on s'inscrit plutôt sur des courts, moyens, long terme, donc ce sont des évolutions. Alors, les variables que l'on peut mettre en évidence très clairement, c'est la température qui augmente, puisqu'on est à peu près là sur une base de 0,2, 0,3 degrés Celsius par 10 ans, en termes d'augmentation de la température, ce qui fait qu'on le voit, on a de plus en plus de journées dites chaudes, à plus de 25 degrés. C'est pareil, on gagne à peu près 2 à 3 journées chaudes tous les 10 ans, en moyenne, en ce moment. Les journées de canicule, à plus de 30 degrés, donc en ce moment, on est sur des bases de 5 à 6 jours par an. On a vu cet été, c'était un peu plus long que prévu. Et on se projette à 2100 avec un scénario négatif sur 60-70 journées par an de canicule. Donc, on est vraiment sur des trajectoires très très rapides d'augmentation des températures, à la fois de l'air, mais aussi de la mer, et voilà, de la surface terrestre. Donc ça, c'est quelque chose qui va forcément impacter le marais, en ce sens où on aura beaucoup plus d'évapotranspiration potentielle dans le marais. Donc ça veut dire que l'été, on aura certainement des épisodes très chauds où la végétation souffre. La problématique température peut, associée à la problématique précipitation, peut aboutir finalement à la mise en difficulté de certains cortèges floristiques et peut-être à la remontée en latitude de certains cortèges qui viennent un peu plus du sud. Donc à ce sujet, par exemple, mais je parle peut-être trop longtemps.
Non, allez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Alors par exemple, effectivement, on le voit ça aujourd'hui.
Oui, alors on le voit, on n'a pas vraiment d'outils encore ici en région pour mesurer comment est-ce qu'un cortège floristique s'adapte au changement climatique. En revanche, en Aquitaine, par exemple, un collectif donc, a mis en place ce qu'on appelle les sentinelles du climat. Donc 20 espèces sont suivies dans l'ensemble de la région aquitaine. Alors pas des espèces, donc faune-flore, hein, le hêtre, la rainette, les odonates, la gentiane des marais, etc. Donc ça, ce sont des espèces un peu emblématiques. Et donc, en l'espace de 6 ans, des inventaires ont été faits, donc avec 6 ans de décalage, et ont permis de mettre en lumière le fait qu'on voit arriver, donc on voit certains habitats d'espèces qui sont de plus en plus mis en péril par le réchauffement climatique, et on voit arriver aussi des espèces qui viennent de Méditerranée, qui commencent à émerger dans des cortèges floristiques qui étaient plutôt de type atlantique. Donc là, on peut suspecter, à moyen terme peut-être, quelques modifications au niveau des cortèges floristiques. Mais n'oublions pas que dans le marais, c'est quand même difficile, dans la mesure où le contrôle exercé par la gestion du marais, donc maintenir des prairies en pâturage, fauchage, maintenir des niveaux d'eau, maintenir la partition marais salé, marais doux, même si on a des gradients de salinité, eh bien, cette gestion donc se surimpose finalement aux effets du changement climatique. Et si on voit des modifications comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple, je prends une espèce végétale emblématique, la sirpaie maritime. Si on voit que la sirpaie commence à dépérir ou au contraire s'agrandit, est-ce que c'est lié véritablement à un changement climatique qui est quand même assez lent, ou est-ce que c'est lié à une modification radicale d'une gestion hydraulique ou un ratage quelque part dans une gestion hydraulique qui fait que tout de suite on a une réaction immédiate? C'est ça la vraie question. Donc c'est pas évident, c'est pas une question simple, voilà, sur ce sujet et sur ce système en particulier.
Vous aviez évoqué donc différentes variables, la variable thermique, d'autres aussi sont mesurées?
Alors oui, toutes les variables climatiques sont mesurées. Si je prends l'exemple des précipitations, quand on fait des bilans sur les 50 dernières années, ou qu'on projette les précipitations dans le futur, on voit qu'il n'y a pas de signal très net. Le climat n'impacte pas particulièrement les précipitations, même si de temps en temps on a des étés secs, on le voit. Quand on prend les mois d'été les plus secs, on ne voit pas de tendance particulière en région. Donc ça, c'est un travail qu'on a pu faire de collecte des données climatiques, et ensuite, quand on projette en fonction des scénarios du GIEC cette variable, on ne voit pas de signal particulier, contrairement à ce que l'on voit en température. Quand on associe les deux, température et précipitation, à précipitation égale mais température augmentante, on imagine bien que l'évapotranspiration augmente, donc la disponibilité en eau diminue mécaniquement. Et effectivement, quand on calcule, donc certains organismes ont travaillé là-dessus, ont proposé donc des variables de type ou Météo France, de type sécheresse météorologique ou sécheresse des sols, là on voit qu'à l'horizon 2100, quel que soit le scénario, on est plutôt sur une tendance critique, c'est-à-dire qu'on va vers un accroissement des sécheresses météorologiques, et on va vers un accroissement des sécheresses des sols. Donc ça veut dire que là, les cortèges floristiques vont certainement un petit peu avoir du mal s'ils sont pas dans le marais alimentés par justement une gestion hydraulique efficace, et on va voir probablement donc des espèces qui vont souffrir un peu, quoi. Probablement donc à l'horizon du siècle. Là.
Alors vous avez donc beaucoup de variables mesurées, beaucoup d'outils, mais vous avez aussi des informations qui nous viennent d'autres régions. Vous avez évoqué l'Aquitaine, d'autres pays aussi. Alors justement, qu'est-ce que nous apporte ces données utiles, hein, évidemment, aux chercheurs et aux gestionnaires des milieux? On en parle dans 3 minutes.
All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smarting when you do to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Emeleme, ulu mama, honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya, can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't talk alone, oh no, no. What it feel like, what it feel like. Like I know I see beat for real life, for real life. In my condo, loving up your body in fast and slow-mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Oh, dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't talk alone. Oh no, no. Emiliano, 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 no. Emiliano, 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 no. You're one in a million, in a million, in a million, no. My Emiliano, 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 no.
Dernière partie de la biodiversité samedi. Nous accueillons aujourd'hui, sur une idée du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, Marc Robin, chercheur universitaire, professeur à Nantes Université. Vous êtes responsable scientifique, je le rappelle, pour les auditeurs qui arrivent, de l'OR2C, l'Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire. Nous parlons de l'impact du changement climatique sur les milieux, sur le marais, sur le littoral aussi. Un changement qui devrait aller en s'accentuant, ça c'est évident. Vous avez plein d'outils de mesure, de modélisation aussi, vous et d'autres chercheurs hein, en France et dans le monde, pour permettre aussi d'anticiper des changements, peut-être d'en corriger. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples voilà, de travaux qui, pour vous, sont vraiment utiles aujourd'hui, qui sont parlants, aussi bien, je vous dis, en France qu'à l'étranger ?
On travaille avec, effectivement, dans des réseaux européens, par exemple, où on regarde un peu ce que font nos voisins américains. Là, on est plus dans un processus d'adaptation au changement climatique. Donc l'adaptation, ça veut dire, ça dépend de l'impact mesuré. Si je suis en termes d'érosion, si je mesure l'érosion sur un littoral dunaire, par exemple, pour aussi parler des littoraux dunaires, donc l'adaptation, ça veut dire recomposer le territoire quelque part. C'est pas simplement empêcher la nature de fonctionner dans le cadre d'un changement climatique, c'est accompagner la nature et lui faire en sorte que la nature rende des services à notre société. Donc quand on a une problématique d'érosion, par exemple dans des zones basses, prenons la baie de Bourgneuf, on imagine que si, ou les cordons dunaires, si on a des problématiques de submersion qui arrivent, on peut très bien regarder ce que font les Hollandais par exemple, qui reconnectent leur marais endigué avec la mer, donc qui restaurent des zones marnantes, et ça veut dire que quand on a une zone marnante, donc la marée de nouveau monte et descend, donc des écosystèmes se mettent en place, et ce sont mécaniquement des écosystèmes très intéressants pour freiner l'énergie marine et minimiser les problématiques de submersion. Donc là c'est un exemple très concret, on en a plein en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Ils sont assez en avance sur nous. Et en France, on a par exemple le programme Adapto qui a été géré par le Conservatoire du Littoral pour essayer justement de proposer des solutions concrètes de désendiguement et de restauration, de reconnexion finalement des marais avec la mer pour pouvoir restaurer ces milieux marnants qui sont très riches à la fois par rapport à des services protection, mais aussi par rapport au bilan carbone, aux services captation du carbone, puisque ce sont des milieux qui captent énormément de carbone et qui contribuent à réguler le climat. Donc par exemple, ça effectivement, ce sont des faits assez concrets qu'on suit, qu'on utilise. Et en région, donc il y a des expérimentations qui commencent à être menées en termes déjà de réflexion, je pense dans l'estuaire de la Loire, où de premières réflexions sur des digues qui sont déclassées sont menées pour savoir ce que l'on fait des prairies qui sont à l'arrière de ces digues et qui ne seront plus entretenues. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires? Est-ce qu'on reconnecte ces territoires pour refaire des zones marnantes? Ce qui est un vrai bénéfice donc dans un estuaire comme la Loire, car les zones marnantes ont quasiment disparu, et dans le cas d'une remontée du niveau de la mer, eh bien on voit que les écosystèmes sont coincés contre les digues, et donc ça c'est pas très bon finalement pour les écosystèmes. Donc il y a toute une réflexion qui est menée là-dessus en région, et en France d'ailleurs, et en Europe, hein, des projets européens donc émergent, des programmes LIFE, il y en a eu dans le sud Vendée, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont très connues maintenant, qui participent de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc là, pour les milieux humides, il y a un certain nombre de solutions qui existent. Pour les milieux dunaires, c'est effectivement une gestion flexible du trait de côte pour plus fixer le trait de côte et le laisser battre finalement au rythme des forçages météo-marins. Donc voilà, ce sont vraiment des solutions qui participent maintenant d'une nouvelle doctrine hein, qui est développée dans notre pays.
Et on entend combien, finalement, ces milieux humides, ces zones humides, sont indispensables, justement, face à l'évolution du climat, à l'évolution de ces données. Les préserver, donc, ces zones humides, c'est aussi préserver donc, la biodiversité des habitats.
C'est utile pour un certain nombre de services. En 2002, le Millennium Ecosystem Assessment avait listé les services rendus par les écosystèmes. On voit que les milieux humides font partie, effectivement, d'espaces extrêmement importants pour la société à tout point de vue. Au point de vue biodiversité, au point de vue captation du carbone, nourrisserie de poissons, un écosystème conchylicole comme celui de la baie de Bourgneuf bénéficierait finalement d'écosystèmes de ce type pour vraiment réalimenter les filières poissons, etc., la qualité de l'eau, la fonction filtrage. Enfin bon, il y a toute une série de services rendus par ces écosystèmes qui sont extrêmement importants. Donc effectivement, les restaurer et les favoriser, c'est une politique qui est vraiment gagnante à moyen long terme.
Pour terminer, Marc Robin, une question que je pose en fin d'émission. La biodiversité est à préserver, ça, personne ne dira le contraire. Aucun doute. Mais à côté de quoi pensez-vous qu'on ne doit pas passer dans cette lutte pour sa défense? Qu'est-ce qu'on ne doit pas rater là aujourd'hui?
Alors c'est une question un peu difficile, mais je dirais que il faut pas considérer que la nature, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, est l'ennemi de la société. Je pense qu'il faut composer avec. Par exemple, on voit que certains habitats dans le marais breton-vendéen donc sont étroitement associés à une gestion extensive. Si je prends l'exemple du pâturage-fauchage, une gestion extensive peut se marier quelque part de façon positive avec le maintien d'un écosystème, d'une biodiversité intéressante et notée donc au niveau européen. Passer sur une gestion intensive serait une erreur. Donc effectivement, il faut composer avec la nature. En zone côtière, en matière de risque côtier, on doit composer avec la nature et pas faire contre. Un littoral qui recule, si on veut le bloquer, on est perdant à très court terme. Voilà, donc il faut composer avec, je crois, ces écosystèmes. Il ne faut pas lutter contre eux. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de solutions fondées sur la nature, c'est réintégrer finalement la nature dans une espèce de vision sociale et pas s'opposer à elle. Voilà, donc il faut un petit peu progresser et avancer là-dessus. Mais je pense que les consciences évoluent très vite et la culture du risque aussi.
Merci beaucoup Marc Robin. Je précise, on n'a pas tout dit. Hein. On n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire et tout ce que vous vouliez dire. Je vous remercie infiniment d'être venu depuis Nantes, donc ici en Nord-Ouest Vendée, mais nous parler aussi du territoire. On retrouvera l'émission en podcast et on vous retrouvera, chers auditeurs, dans un nouveau rendez-vous.